Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Paul Zetoun est avec nous, ex-professeur de médecine, auteur de nombreux romans et puis de cet ouvrage passionnant avec une quarantaine de situations, alors des situations plus calamiteuses les unes que les autres, surtout avec les moyens d'éviter les fameux accros lorsqu'on est en famille avec des amis ou avec des collègues. Comment on se pourrit la vie, c'est son ouvrage aux éditions Enfortas. Bonjour Paul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous serez accompagné de Marie Andersen, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle L'art de se gâcher la vie, qui rejoint d'ailleurs un petit peu ce que vous dites, Paul Zetoun, où elle préconise effectivement, où elle relate en tout cas des situations extrêmement compliquées qu'elle a pu vivre en cabinet. Bonjour Marie Andersen. Merci d'être là tous les deux. Alors, on va effectivement parler de cet art. Alors, est-ce que c'est un art à la française? Est-ce que vous avez le sentiment, Paul Zetoun, que les Français sont quand même champions du monde du « je me prends la tête » et visiblement, on sait se pourrir la vie?
Oh non, non, pas du tout. Je crois pas que ce soit particulier aux Français. Je crois que les Français savent le faire et je crois que chacun à sa manière, dans tous les pays, savent aussi se rendre la vie un peu difficile.
Rendre la vie impossible. Marie Andersen, sur cette question.
Alors moi, j'ai un regard un petit peu différent, puisque à l'origine je suis belge et puis que je vis dans le sud-ouest maintenant, dans la région du Tarn. Et je dirais que d'une manière globale, la Belgique est un pays de gens un petit peu plus ronds, plus joyeux, qui ont une capacité de se moquer d'eux-mêmes, qui leur offre une porte de sortie peut-être un petit peu plus facile de temps en temps.
Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je trouve que les Belges sont des gens d'abord extrêmement chaleureux, accueillants, et qu'ils arrivent peut-être, même quand ils ont les aléas de la vie que tout le monde peut avoir, ils arrivent à relativiser un peu les choses de manière plus simple que les Français.
C'est possible.
Paul Zetoun, d'accord ou pas d'accord?
Moi, je suis assez d'accord. Je crois qu'effectivement, j'ai quelques amis belges avec qui je m'entends très bien et que je trouve plus joyeux, plus proche, plus ouvert aux autres. Mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur et moi, je ne suis pas psychologue des Belges. Peut-être qu'en les connaissant mieux, peut-être qu'on doit avoir une clientèle. Donc peut-être qu'on voit un autre aspect, je ne sais pas.
En tout cas, est-ce que vous avez le sentiment, Paul Zetoun, et on va évidemment parler concrètement de vos ouvrages respectifs, Paul et Marie. Paul, vous avez le sentiment que l'art de se pourrir la vie, c'est un syndrome, véritablement, ou pas?
Pas du tout, non. Ah non, ce n'est pas du tout un syndrome. Ça veut dire ce n'est pas une maladie particulière. Les syndromes, vous savez, nous en médecine, pour nous, un syndrome, c'est un groupe de signes qui est significatif d'une maladie. Non, nous sommes environnés de gens qui, en voulant notre bien, nous compliquent la vie, finalement, et nous rendent insatisfaits de nous-mêmes.
Par contre, Marie Andersen, vous l'avez écrit, ça, que l'art de se pourrir la vie, c'est un syndrome.
Je ne me souviens pas vraiment d'avoir utilisé ce mot, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça me paraît être la conséquence d'une époque où tout est devenu quand même assez accessible. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on a eu accès à une consommation effrénée et à des services qu'on avait d'un claquement de doigts, si je puis dire. Et d'une certaine manière, ça crée chez les adultes aujourd'hui une forme de frustration quand le monde leur résiste, quand les choses ne sont pas fluides, quand l'autre n'a pas la même opinion, quand l'autre forme barrage, quand les circonstances sont contrariantes. C'est comme si nos enfances ne nous avaient pas suffisamment appris à la souplesse et comment dire, la digestion facile de la frustration. Et je trouve que beaucoup d'adultes sont aujourd'hui un petit peu comme des enfants assis dans une chambre à jouer avec trop de jouets autour d'eux, ne sachant plus très bien lesquels sont stimulants, lesquels sont attrayants, et un peu lassés et contrariés par trop de choix, trop de possibilités, et une faible résistance à la frustration.
C'est ça aussi pour vous, Paul Zetoun, le « je me pourris la vie »
C'est-à-dire que là, je ne suis pas rentré du tout dans une analyse sociologique de la façon dont nous prenons les choses aujourd'hui. J'ai le souvenir, là je ne l'ai pas raconté, mais je vous le dis comme ça parce que ça m'est revenu, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui était affolée parce qu'elle avait brûlé le repas de midi et qu'il en restait un petit peu et que mon grand-père allait rentrer et qu'il allait trouver le repas brûlé. Qu'allait lui dire voilà deux personnes qui allaient être malheureuses et qui ne sont pas de ma génération.
Alors on va voir évidemment dans vos ouvrages respectifs, je le disais, hein, comment on se pourrit la vie, Paul Zetoun et Marie Andersen avec l'art de se gâcher la vie. La définition c'est quoi, Marie? C'est, en tout cas quand on parle de se pourrir la vie, c'est quoi? C'est s'obstiner en vain, et vous dites, vous avez une belle expression, c'est pédaler en freinant.
Oui, c'est ça. En fait, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir des regards croisés d'un médecin et d'une psychologue, et je trouve ça assez intéressant parce que on ne voit pas la même chose et nos grilles de décodage ne sont pas nécessairement tout à fait superposables. Moi, j'ai pris un petit peu l'ensemble de mes patients et, grosso modo, j'ai mis de côté les personnes qui vivaient de grandes souffrances et j'ai regardé les personnes qui, globalement, me disent « En fait, j'ai tout pour être heureux, mais je n'y arrive pas. » Et qui sont dans des petites misères, dirais-je. Et j'ai essayé d'analyser ce qui les empêchait d'être heureux, puisque c'est ça qu'ils disaient être capables de faire, mais ne pas y arriver. Et je me suis vraiment rendu compte que ce qui pouvait être commun à l'ensemble de ces personnes, c'était ce que vous venez de dire. Ils s'obstinent en vain. Ils s'obstinent à vouloir faire des choses qui ne marchent pas, du genre je lui ai répété 100 fois la même chose et ça ne marche toujours pas. Ils s'obstinent à rester dans des situations, donc dans un immobilisme qui n'apporte rien d'heureux. Par exemple, quand on dit tant que l'autre ne change pas, moi non plus je ne changerai pas. Alors de cette manière-là, on est tous les deux dans la misère. Ils s'obstinent aussi à croire des choses qui ne sont pas fondées, croire que leur problème n'a qu'une seule solution et que cette solution, elle est dépendante d'autres choses sur lesquelles ils n'ont pas d'action. Alors s'ils n'ont pas d'action sur cette chose, eh bien donc ils n'ont pas de solution à leur problème et ils ont une analyse de leur situation qui est tout à fait fausse mais qu'ils ne veulent pas mettre en question parce que peut-être ils ont intérêt à rester assis sur leur chaise. Ça se travaille, ça, évidemment.
Ça veut dire quoi? C'est un mécanisme d'auto-sabotage?
Ça existe. Je ne dirais pas ça pour tout le monde, mais il y a des personnes qui préfèrent, paradoxalement, rester victime d'une situation plutôt que de faire un effort qui leur paraîtrait plus grand, et on peut le comprendre, de regarder plus sainement ce qui se passe et de se retrousser les manches et prendre leurs responsabilités. Parce qu'en fait, se gâcher la vie a des tas de causes que nous allons analyser au fil de cette heure, mais la sortie de crise, si je puis dire, reste dans nos mains. Si on est persuadé qu'on est victime d'un système extérieur sur lequel on n'a aucune prise, alors on peut rester victime toute sa vie. Si on se dit, étant donné le système comme il est, avec ses points forts et ses points faibles, quelle est ma marge de manœuvre, quelle est ma part de responsabilité dans l'impulsion que je peux donner à ma vie, quel est le prix peut-être que je dois payer pour pouvoir sortir de cette situation, c'est ce qu'on pourrait appeler le ticket de sortie, qu'est-ce que je vais devoir laisser tomber pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle je suis engluée, toute cette réflexion, c'est quand même de notre responsabilité.
Quand on entend Paul Zetoun, quand on entend Marie Andersen nous décrire effectivement la situation problématique, c'est-à-dire ce besoin de faire un pas en arrière pour analyser la situation difficile qui nous pourrit l'existence précisément, on a le sentiment qu'il y a très très peu de gens, et d'ailleurs dans la quarantaine de portraits et de situations tout aussi calamiteuses les unes que les autres que vous décrivez dans votre livre, Comment on se pourrit la vie, on a l'impression qu'on a du mal à le faire, ce pas en arrière pour prendre du recul suffisamment pour analyser la situation.
Je vais reprendre la notion de médecin et de psychologue. Moi, je n'ai pas du tout écrit en tant que médecin. Là, je suis gastro-entérologue. Je n'ai pas du tout raconté, tout à fait incidemment, les soucis digestifs, les ennuis médicaux. Et d'ailleurs, j'ai exclu de mon propos le vol, la mort.
Vous parlez des conflits au travail. Vous parlez des conflits au travail. Vous parlez des conflits au travail. Vous parlez des conflits évidemment en famille.
Oui,
vous
couplez.
De tout le monde. C'est exactement
Je ne parle pas de gens qui ont tellement de difficultés qu'ils ont besoin de consulter un psychanalyste ou un psychologue, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est de tout le monde. Le premier chapitre, c'est accueil. Vous arrivez, vous êtes mal accueilli. Que faire? Vous êtes mal accueilli parce qu'on vous a pas vu, parce que vous avez l'impression d'être transparent ce jour-là, parce qu'il y a probablement un ennui à la direction. Que faire? Mais c'est, et, vous dites, et c'est des choses de tous les jours.
Absolument.
Je n'ai pas du tout sélectionné des gens qui ont de gros problèmes personnels.
Mais
pas
Paul,
du tout.
Paul Zetoun, on est complètement d'accord, et ça rejoint exactement ce que dit Marie Andersen. Marie Andersen n'a jamais dit on arrive dans des situations, on est obligé d'aller consulter. Elle parle simplement de petits quiproquos au sein de la famille, au sein des petits soucis du quotidien, qui effectivement, si on a la possibilité intellectuelle, physique ou l'intelligence de remettre en question un peu les choses, de se remettre en question, on arrive à faire un pas en arrière et à éviter de se pourrir la vie. C'est ce que vous dites, Marie, hein, il n'y a pas du tout de...
Moi, je ne parle pas de se remettre en question. Je vous demande pardon, mais pas du tout. Je parle de l'idée que finalement, ça n'a pas une grande importance si on juge avec un tout petit peu de recul.
C'est ce que je dis.
Recul.
C'est exactement ce que je viens de dire.
Ce n'est pas se remettre en question. C'est remettre en question la situation. Remettre en question éventuellement les autres. Remettre en question le mot qu'on vous a dit et qui n'était peut-être pas si méchant que ça, que vous avez mal pris. Parce que chez vous, il y a quelque chose qui fait que ça va être mal pris. Et ça, c'est pas du tout se remettre en question. Quand je parle de la petite avarice, là, par exemple, c'est vrai. Je me remets en question. Moi-même, j'ai pas envie de payer mon parking. Alors, je suis pris par la petite avarice. J'ai envie de mettre le moins possible, de me dire qu'après tout, un quart d'heure de plus. Mais c'est tout le monde. Ce n'est pas du tout un grand problème.
Bon, bah écoutez, oui, c'est pour ça. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous mettez en opposition le livre de Marie Andersen au vôtre.
Non.
C'est exactement. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose. Vous dites exactement la même chose.
Je ne mets pas du tout en opposition. J'essaye de situer mon propos. Il n'est pas médical, en aucune façon. Ben, je suis médecin, malheureusement, je ne peux parler que moi, quoi. Je suis médecin. Et d'autre part, il est issu de conversations que j'ai eues avec beaucoup de monde, y compris mes amis. Donc non, ce n'est pas des cas très très calamiteux comme vous dites, car je les ai exclus, les cas calamiteux. Le deuil, c'est terrible. Moi, je ne crois pas qu'il y a de solution. Il n'y a pas de solution au deuil. Donc non, je pars. Par exemple, la colère. Bon, si on s'est mis en colère, c'est que ça, le système n'a pas marché. Mais tant pis. Mais il faut essayer de bien juger la situation. Le coup de klaxon du bonhomme qui est derrière vous et qui fait ça pour rien, qui a un problème personnel, il faut essayer de remettre les choses à leur place, voilà. Mais je n'oppose pas du tout les deux. Ce sont deux aspects des mêmes ennuis que nous avons tous, finalement.
Oui, absolument. Mais c'est pour ça que je dis que je vois pas... Je crois que c'est une question de mots, on joue sur les mots. Mais Marie Andersen, ça rejoint ce que dit Paul Zetoun, en l'occurrence dans votre livre, L'art de se gâcher la vie. On parle de petits tracas du quotidien. Alors bon, j'ai employé les mots de calamiteux tout à l'heure, bon, c'est peut-être un peu excessif, mais les petits tracas du quotidien, quand vous avez évoqué tout à l'heure le fait de dire « il ne m'écoute pas », donc ça fait 15 fois que je répète la même chose, et au bout de la 15e fois, c'est toujours la même situation. C'est ça, les petits tracas du quotidien. Et quand la personne qui dit « il ne m'écoute pas » ne se remet pas en question, ou en tout cas n'essaie pas de faire ce petit pas en arrière pour prendre un peu de recul, eh bien c'est là où on commence à se pourrir la vie et que les deux personnes souffrent l'un de l'autre. Marie, on est d'accord ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit « je lui ai déjà dit 15 fois », j'ai envie de lui dire « et vous pensez qu'à la 16e fois, ça va aller mieux ?» Il est évident qu'à un certain moment, il faut bien se rendre compte, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on pédale en freinant. C'est-à-dire qu'on cherche à obtenir un résultat, mais il y a quelque chose qu'on ne veut pas prendre en compte, qui vient soit de l'autre, soit de soi, soit de la relation entre les deux ou des circonstances, qui fait que ça ne marche pas. Donc c'est là qu'on est renvoyé à sa responsabilité. Mais ce avec quoi je pense que Paul Zetoun et moi, on est totalement d'accord, et vous le suggérez très clairement, c'est que la première des choses à faire, en tout cas je le préconise, c'est de prendre un moment pour se poser, prendre du recul et essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans ce moment de recul, il y a des choses qu'il faut pouvoir accepter. Il faut accepter que la vie n'est pas parfaite, qu'elle est pleine d'imperfections. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Il faut accepter qu'il y a de l'imprévisible, de l'aléatoire. Il faut accepter que parfois les choses font un petit peu mal. Il faut accepter que la justice parfaite est plus un but idéal qu'une réalité quotidienne. Il faut accepter qu'on n'a pas de réponse à tout et accepter ce côté un petit peu imparfait de la vie parce qu'elle est tellement, tellement complexe. ça aide quand même à passer à autre chose, à relativiser. Pour, sur ce point-là, on est vraiment, je trouve, tout à fait d'accord.
Il faut demander à Paul Zetoun s'il est d'accord, du coup, parce que là...
Ah oui, 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 ça, je crois que Marie Anderson a tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut accepter. Mais j'ajoute une notion que je répète à plusieurs reprises, c'est qu'il faut voir la sortie. Que parfois il n'y a rien à faire et qu'il faut mieux se détourner, aller ailleurs et puis voilà, se manifester si l'on veut et puis ne pas s'acharner.
Oui, c'est l'entêtement qui est nuisible,
l'entêtement est le... Et il faut pas se... Oui, effectivement, c'est l'entêtement. Moi, je trouve qu'on peut... Il y a un moment où j'explique qu'il faut toujours savoir où est la sortie quand on arrive quelque part. Et avec certaines personnes, il faut savoir dire « je suis très occupé » parce qu'on sait qu'il va pouvoir tenir une demi-heure pour vous raconter des inepties. Donc, moi, je crois qu'il faut se protéger un peu, oui, effectivement. Je suis d'accord avec elle.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio. Comment se pourrit la vie et l'art de se gâcher la vie, respectivement. Paul Zetoun, ex-professeur de médecine, auteur de nombreux romans, dont celui-ci, enfin, c'est pas un roman, mais en tout cas, ce sont des tranches de vie, j'ai envie de dire, de ceux qu'il a pu côtoyer, aussi bien au travers de ses amis, de sa famille et de ses collègues. Et même si Paul Zetoun disait tout à l'heure, lorsque j'ai utilisé le mot de calamiteux, hein, dans des situations calamiteuses avec ses amis, il disait, ouais, mais je parle pas de situation. Si, monsieur Zetoun, vous le dites, c'est écrit dans votre livre. Une quarantaine de situations calamiteuses, vous le dites, avec surtout les moyens d'éviter les accros. C'est vrai qu'à chaque situation un petit peu difficile, eh bien, vous parlez précisément de la manière dont on peut s'en sortir, c'est le fameux « que faire ». Et quand vous dites, monsieur Zetoun, tout à l'heure, je ne parle pas de choses gravissimes comme la mort, vous parlez de l'alcoolisme quand même, c'est quelque chose de grave.
Oui, c'est grave, mais c'est grave quand ça devient grave. C'est pas forcément grave au départ. Et je crois qu'il faut le savoir. Mais je comprends pas très bien votre question. Vous voulez quoi, me faire dire que je me suis trompé dans ce que j'ai dit ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez?
Oui, monsieur, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, parce que vous avez remis en question le fait que je puisse parler de situations calamiteuses. Et oui, vous me dites, mais je n'ai jamais parlé. Vous me dites, mais je ne parle pas des situations calamiteuses. Mais si, vous en parlez.
D'accord. Non, je citais. Bon, je veux bien qu'on fasse un petit qu'on joue sur les mots. Oui. J'ai cité des situations calamiteuses, mais voilà. Il y en a. J'ai exclu le deuil, la mort, le vol, le viol, et certaines situations qui sont la guerre, etc., etc. Je les ai exclus. J'ai exclu les grands problèmes psychologiques très complexes. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, pour vos auditeurs, de dire que j'ai parlé de situations calamiteuses, c'est moi qui avais utilisé ce mot, mais c'est ce ne sont pas des situations de tous les jours. Je vais prendre un exemple, si vous permettez.
Je vous en prie.
Je vous prends les « i ». Je vais aller, il y en a 47. Mmh. « I », c'est « incivilité dans la rue »,« indécision », »,« ingratitude », »,« insatisfaction ». Vous prenez ces quatre notions, ces quatre mots, ces quatre situations, et ça peut gâcher une journée complète. Car finalement, dans la rue, vous êtes. Moi, je suis cogné parfois par un cycliste qui devrait ne pas rouler sur un trottoir. Je ne suis pas sûr de prendre la décision de faire je sais pas quoi. Mes enfants ne sont jamais assez ingrats, n'ont jamais assez de gratitude à mon égard. Et tout ça, c'est dans une grande insatisfaction, forcément, si je me laisse aller. Donc voilà des choses que moi j'ai appelées calamiteuses, mais qui pour vos auditeurs
ne le sont pas.
Pas leur dire que ça va être calamiteux quand même. C'est ça que je me suis permis de reprendre ce terme, pas pour vous reprendre vous-même, mais pour situer un tout petit peu le fait que c'est le problème de tous les jours et de tout le monde que j'ai abordé, voilà. Pas du tout des problèmes graves.
Voilà. Donc parenthèse fermée, Paul. Tout va bien. Marie Anderson, je prends le cas d'un de vos confrères qui est psychanalyste, qui s'appelle Jean-Claude Lyodé, qui dit ceci. Il dit quoi de plus terrible que quelqu'un qui ne se gâche jamais la vie. Être humain, c'est avoir des failles. Imaginer que l'on puisse vivre dans une harmonie absolue, c'est absolument effrayant, car cela rejoint cette idée, cet idéal de perfection qu'il est vain de convoiter. Qu'en pensez-vous ?
Alors ça, c'est un extrait de son livre « L'éloge de la fragilité », si je ne me trompe.
Non, c'est un extrait de son livre « La névrose française ».
Ah bon, d'accord.
Aux éditions Edith Jacob.
Mais je pense que c'est l'harmonie est un phare dans le brouillard vers lequel on tend. Pourquoi pas? Mais la vie est bien trop complexe pour qu'on puisse imaginer être dans une harmonie de longue durée, parce que la vie, elle est faite aussi de chair, elle est faite de désir, elle est faite d'émotions, elle est faite aussi aussi, malheureusement, de souffrance. Par exemple, le simple fait d'aimer, qui est quand même une richesse dans notre vie d'être humain, est inévitablement associé de temps à autre à la souffrance. Donc, on ne peut pas rêver d'une vie d'harmonie. Cela dit, tenter d'être un petit peu plus serein, plus cool, comme on dit aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui fait un bien fou. Comme le souligne très bien Paul Zetoun, râler toute la journée parce qu'un cycliste nous bouscule, c'est effectivement pas une manière très harmonieuse et très sereine d'envisager la vie. Moi, je pense que ça nous ramène, c'est à la fois léger et lourd ce sujet, parce que ça nous ramène aussi au fait que chaque jour perdu est perdu, et que tous les jours nous avançons sur le chemin de la vie, et qu'un jour tout ça va s'arrêter, et on n'a pas trop envie d'y penser, et tant mieux d'ailleurs. Mais de temps à autre, le fait de penser au fait que nous avons un terme et une fin à notre vie doit nous rendre le farouche désir de que nos journées soient meilleures, et que nous cessions de nous prendre la tête pour des peccadilles, que nous cessions d'essayer de faire changer l'inchangeable. Par exemple, cessons de faire d'essayer de faire changer l'autre. C'est un réflexe d'ex-enfant, nous sommes tous des ex-enfants. Un petit enfant qui est dans l'embarras, dans la souffrance, c'est très souvent lié à l'environnement. Il a peu d'action sur son environnement, sur les adultes. Mais nous ne sommes plus des enfants. Mais nous gardons ce mode de fonctionnement encore au fin fond de notre âme, c'est que quand ça va pas dans une relation, c'est à cause de l'autre. Et alors on veut faire changer l'autre, et on lui explique qu'il ne peut pas s'y prendre comme ça, qu'il ne doit pas faire ça, et on s'obstine. Mais non seulement c'est vain, mais parfois même c'est pire, c'est contre-productif, parce que l'autre n'est pas non plus une pâte à modeler que nous allons pouvoir modeler à l'aune de nos propres désirs. L'autre, il a sa résistance, son envie d'être comme il est, il n'aime pas nécessairement qu'on lui fasse la leçon, et donc il résiste. Donc c'est doublement vain. Et ça, il faut un jour abandonner.
Et est-ce que vous avez le sentiment, justement, Paul ou Marie, que c'est une question d'éducation avant tout cela ? Paul Zetoun, par exemple ?
Personnellement, je ne crois pas que c'est une question d'éducation. Je crois que c'est une question d'évolution de soi-même au fur et à mesure que la vie vous façonne. Et effectivement, on peut considérer que la vie est une façon de s'éduquer. Pour ce qui me concerne, en tout cas, de ce que vient dire Marie, j'ai écrit un chapitre qui ressemble un peu à ce qu'elle a, un petit paragraphe, qui s'appelle « Améliorer quelqu'un ». Et justement, je reprends exactement ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire que on voudrait que l'autre soit mieux que ça. Alors, il a fait quelque chose comme il peut, puis on lui dit « Ah non, si tu avais fait, etc. » Et puis on veut qu'il vous soit par... Moi, je dans ces 47 billets d'humeur, j'évoque des choses toutes simples. Et ces choses toutes simples en viennent à dire que lorsque ça va pas, ben, il faut regarder vers la sortie. Pour ce qui concerne de la vie et de la mort, personnellement, moi, je n'aime pas du tout penser à la mort, et j'ai pas besoin de penser à la mort pour vivre de façon heureuse. Je vis de façon heureuse parce que je vis, c'est tout. Et ce n'est pas la mort qui me fait vivre mieux, franchement. Non, ça, je ne connais pas, je comprends pas.
Marie Andersen, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce que vous dites. Vous dites qu'il y a un certain soulagement à se plaindre. On sait que le français est râleur. On en a presque fait un championnat du monde. Hein, on serait les champions du monde du je râle. Et vous dites qu'il y a un certain soulagement à se plaindre parce que ça permet d'attirer l'attention de l'autre et ça nous conforte dans l'idée que la cause de notre problème est hors de nous. Donc c'est toujours la faute de l'autre, en fait.
Effectivement, je pense que le mal de vivre avec les hauts et les bas et des moments fort heureux, bien entendu, ça fait partie des fluctuations de la vie de l'être humain, et que finalement, quand on est dans les parties basses, moroses, et qu'on broie du noir, il est plus simple d'attribuer cette morosité ou cette frustration aux circonstances extérieures. De nouveau, en tant que psy, je sais que ça prend des racines, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans notre enfance. Mais les circonstances extérieures, d'abord, elles sont ce qu'elles sont, on ne peut pas les changer. Et on a parfois un malin plaisir à tourner, le faire dans notre propre plaie et à ruminer, parce que il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, de plus facile et en même temps de plus, comment pourrais-je dire, c'est une facilité qui ne nous grandit pas nécessairement, mais c'est comme ça, ça fait partie de nos petites misères, d'attribuer le mal à l'autre plutôt que de se dire, mais pourquoi diable est-ce que je me laisse tourner en rond dans cette situation? Pourquoi est-ce que je ressasse ces idées noires? Est-ce que je suis pas un peu en train de les noircir plus qu'il ne faut et sortir de cette misère? Et je pense que se victimiser, c'est une tendance qui de temps en temps nous convient, même si elle n'est pas jolie jolie, mais ça nous convient parce que nous pouvons à ce moment-là espérer avoir de l'attention. Et ma foi, c'est bon, hein, de l'attention. Quand il y a des grands bras qui s'ouvrent et qui vous disent « mais ne t'en fais pas, ça va s'arranger, je suis là, je vais t'aider », ça fait du bien, bien sûr ça fait du bien.
C'est pour ça que vous parlez d'enfants gâtés quand il y a sur notamment la nouvelle génération ?
Je ne faisais pas ce lien-là, mais je sais que nous portons beaucoup de traces de notre enfance en nous. Et vous savez, quand un humain dit « mais je voudrais bien ne pas m'énerver comme ça, mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas », ou bien « je sais que je ne devrais pas déprimer de cette manière, mais c'est plus fort que moi, ça me va trop loin, cette histoire me va trop loin ». Vous voyez, ce sont des scènes qu'on a tous vécu ou entendu. Cette petite phrase, c'est une phrase clé. C'est plus fort que moi. C'est comme si je ne me dirigeais plus moi-même. J'étais comme habitée par quelqu'un qui vit une émotion dont je ne comprends pas la profondeur et l'ampleur. Les gens, par exemple, qui ont des colères irrépressibles et puis qui après s'en veulent terriblement, disent ça. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était plus fort que moi. Mais nous ne sommes pourtant pas habités par une autre âme que la nôtre, si ce n'est les traces de l'enfance, de l'enfant blessé, de l'enfant frustré, du petit qui n'a pas pu exister assez, qui n'a pas été suffisamment entendu, qui avait des tas de frères et sœurs qui couraient plus vite, qui étaient plus brillants, etc. Toutes sortes de situations de l'enfance normale, dans les familles normales, où ces petites blessures restent actives en nous parce qu'elles ne sont pas liées à des traumatismes réels. De nombreuses personnes disent « mais j'ai eu une enfance très normale, je n'ai pas de traumatisme particulier ». Néanmoins, ce côté « c'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'en sortir, je ne comprends pas pourquoi je fais le contraire de ce que je devrais », par exemple, c'est quelque chose de fréquent, ça c'est une clé qui prend ses racines dans l'enfance.
Est-ce que ça veut dire, Paul Zetoun, que en fait, les maîtres mots, quand on se retrouve dans des situations comme ça, vous parliez d'incivilité tout à l'heure, ou d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne veut pas changer nécessairement, est-ce que pour l'autre, ça veut dire accepter, admettre, et si ça ne va pas, contourner pour prendre une autre direction, un autre chemin ?
C'est exactement la façon que j'applique, que je conseille, que j'applique, que je crois il faut essayer d'être gentil avec tout le monde comme on peut, et puis être aimable. Je précise une chose, c'est que j'étais dans un service hospitalier à Paris où il y avait, je sais pas, 4 ou 5 psychanalystes dans le service, et moi-même j'ai été psychanalysé. Donc je comprends parfaitement ces racines dans l'enfance, etc. Je le comprends très bien. Mais je me suis placé à un niveau un petit peu plus superficiel. Les petits ennuis de tous les jours, ceux qui sont en surface, je me suis pas posé ces questions parce que là, je serais allé au-delà de mes capacités. D'ailleurs, je ne suis pas psychiatre, moi. Je ne suis pas psychanalyste.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Marc Leval.
On va terminer l'émission avec Marie Andersen, donc, et son livre « L'art de se gâcher la vie », psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Vous n'avez pas du tout le moindre petit accent belge, hein, quand même, hein, Marie, je vous le dis au passage. Vous êtes là, Marie ?
Oui, je suis là.
Très bien. Non, je disais, vous n'avez pas du tout le moindre petit accent belge.
Ah bah vous êtes gentil comme tout, merci beaucoup. Non, vous n'avez fait aucune blague belge, ce qui me fait plaisir.
Oh non, pitié.
Tout va bien.
Vous savez pourquoi je vous en ai pas fait ? Parce que je sais que vous en avez autant pour nous. Donc c'est pas la peine de...
Voilà, hein, voilà, ma réplique était prête.
Exactement, j'imagine très bien. Alors oui, on le disait avec Paul Zetoun tout à l'heure, est-ce que, juste avant la pause, je l'évoquais, est-ce que la solution pour éviter justement de se gâcher la vie, c'est d'accepter, d'admettre et de contourner si vraiment le problème est inextricable ?
Ah, moi, je crois que c'est une des premières solutions possibles, mais je mettrai une petite réserve, c'est que de temps en temps, quand on contourne, on abandonne la relation, et parfois c'est une relation importante. On abandonne temporairement la relation. Et l'autre, si par exemple l'autre est un enfant ou un ado en difficulté, des situations comme ça, l'autre se sent lâcher à ce moment-là. Donc, bon, je mettrais juste ça comme petite réserve. Il y a des moments où l'affrontement, peut-être, est plus solidaire, je dirais, que l'abandon. Mais voilà, c'est des grands mots. Hein. Abandon, je ne pense pas que c'est ce que Paul Zetoun voulait véritablement dire.
Est-ce que le fait d'accepter et d'admettre, Marie, ça s'apprend ?
Oui, je pense que accepter et admettre, ça s'apprend. Et je pense que les 20 premières années de notre vie nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. En tant que psy, je suis très, vraiment très sensible à combien nous sommes formés par ces années-là. Mais quelles qu'aient été ces 20 premières années de notre vie, il va falloir faire avec. Et c'est Camus qui dit ça très joliment, ça montre bien que c'est quand même loin d'être une idée rare. Il dit « Nous ne sommes pas responsables de l'histoire », enfin je le dis comme ça, de mémoire. « Nous ne sommes pas responsables de l'histoire parce que nous ne l'avons pas commencé, mais nous sommes responsables de la continuer, ou non. » Et voilà, on peut commencer la vie avec un apprentissage de vie qui n'était pas nécessairement le meilleur, et par exemple avec des parents très victimisants ou très aigris, prenons ça par exemple, des gens très aigris qui passent leur temps à nous dire combien la société est moche. C'est sûr que quand on est un jeune adulte et qu'on se lance à ce moment-là dans la vie, on n'est pas parti nécessairement avec un regard positif, mais il va falloir évoluer, et ça, c'est dans nos mains. C'est Sartre aussi qui dit ça, il m'importe peu de savoir ce qu'on a fait de moi, mais il m'importe de savoir ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi.
Ça, c'est très compliqué.
Ça, c'est notre tâche d'adulte.
C'est quand même très très compliqué, ça, apprendre. Il faut déjà le fait de prendre conscience qu'il y a ce problème-là, c'est déjà énorme comme pas en avant.
Oui, maintenant, restons dans la légèreté du thème. Hein. Nous sommes sur les petits gâchages de vie et pas sur les grandes souffrances.
Oui, mais il peut y avoir des conséquences à cela.
Moi, j'ai écrit ce livre dans ce sens-là. J'ai écrit ce livre avec l'idée, je me suis vraiment demandé, qu'est-ce que je peux faire passer de mon expérience professionnelle dans un bouquin et qui va permettre à la fin du livre de se dire, j'ai quand même quelques armes, quelques tuyaux, quelques pistes pour voir ce que je fais, comment moi-même je m'emberlificote, comment je m'empoisonne la vie tout seul. Et quelles sont les pistes de sortie. Alors ensuite, j'écris un livre qui lui fait suite, qui s'appelle « Faire le choix du bonheur ». Et dans le choix, il y a vraiment cette responsabilité. C'est un choix de rester les pieds emmêlés dans la gadoue ou de faire ce qu'il faut pour en sortir. C'est un choix. Alors, je peux entendre l'auditeur dire « Oui, un choix ».
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous allez
le dire. Néanmoins, personne ne va le faire à votre place. Et c'est ça qui compte. Même si c'est difficile, il n'y a plus personne, une fois qu'on a passé 30 ans, qui va nous prendre par la main et dire « Mon petit chéri, je vais t'aider ». C'est nous qui devons faire cette démarche.
Ou se faire aider, si on peut éventuellement se faire aider par quelques... justement, notamment des psychologues cliniciennes ou des psychothérapeutes. Vous êtes là pour ça.
Bien sûr. C'est pas pour rien que j'en ai fait mon métier. Et de temps en temps, effectivement, c'est tellement compliqué à décoder et puis il y a trop d'émotions qui bloquent que, bien entendu, ce travail de regard petit à petit, plus approfondi sur soi-même, c'est un travail qui, à mes yeux, est salutaire. Mais pour rester dans le niveau plus léger du thème d'aujourd'hui, moi, la première des choses à faire, je pense, c'est être, c'est une expression que j'aime bien, être son meilleur ami. Imaginez que nous avons à côté de nous la personne qui nous aime le mieux, qui nous connaît le mieux et qui nous conseille le mieux, qu'est-ce qu'elle nous dirait ? Et parfois, quand on fait ce travail-là, cette personne inventée, elle nous dirait par exemple « Tu te trompes, arrête ». Tu sais bien que c'est pas la bonne voie. Mais on veut pas l'entendre nous-mêmes. Et je crois que ce petit truc peut être aidant. Vous voyez, c'est pas toujours si compliqué que ça. Cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, on veut pas toujours l'entendre. Et il y a moyen de l'approcher un petit peu plus.
Est-ce que le fait d'avoir...
Aussi...
Ah, pardon, oui. Marie. Est-ce que le fait d'avoir écrit « Faire le choix du bonheur » vous a permis de le trouver ?
Globalement, oui. Globalement, oui. C'est quelque chose que mes proches me disent régulièrement, hein, applique-le à toi-même.
Ah oui, déjà,
et,
oui.
Je me le dis, évidemment, je me le dis tout le temps. J'ai fort ce sentiment de n'avoir qu'une vie et de ne pas avoir envie de la gâcher. Et contrairement à Paul Zetoun sur cette question, moi j'ai beaucoup travaillé sur le thème de la fin de la vie, notamment dans les services de soins palliatifs, et j'ai été confrontée dans ma vie personnelle à des morts tout à fait prématurées qui m'ont quand même vachement sonné les cloches. Ce que j'ai vu avec les personnes en fin de vie, c'est que les personnes qui étaient heureuses de leur vie aborder la mort avec plus de sérénité que les personnes qui regardaient en marche arrière et se disaient « je suis passé à côté ». Et malgré tout, ce que je souhaiterais pouvoir, enfin ce que je souhaiterais pour tous les gens que j'accompagne et que j'aide et qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pouvoir se dire, quand on arrivera au bout du chemin et qu'on regardera notre vie en marche arrière, pouvoir se dire « c'était chouette, ça valait la peine ».
Et ouais, je le souhaite à tout le monde.
C'est ce que je voulais finalement, évidemment. Globalement.
Évidemment, mais le fait de pouvoir terminer sa vie en se disant ça, c'est quand même une consécration. Merci beaucoup Marie Andersen, merci l'art de se gâcher la vie et puis faire le choix du bonheur. Eh ben, on va vous souhaiter plein de bonheur justement, vous qui nous écoutez.